Aujourd'hui, la masterclass de Jacques Audiard avec Lucille Como.
Merci beaucoup, Jacques Audiard.
Bonsoir.
On va parler cinéma, donc. Je vais commencer par donner quelques éléments de votre curriculum vitae, comme on dit. Alors, vous êtes cinéaste, un parcours qui commence à la fin des années 70. Vous avez été assistant réalisateur, vous avez fait du montage. Vous avez écrit dans les années 80 plusieurs scénarios, puis vous êtes devenu réalisateur vous-même. Vous avez aujourd'hui signé 7 longs métrages en 20 ans à peu près, depuis Regarde les hommes tombés en 94, à l'autre bout d'Ipan en 2015, et au milieu, je le cite, un héros très discret sur mes lèvres, de battre mon cœur s'est arrêté, un prophète et de rouiller d'os. Vous avez reçu une petite dizaine de Césars. Je crois d'ailleurs que c'est un record.
De quoi, pardon ?
Des Césars vous avez reçus. Et puis vous avez reçu une Palme d'Or aussi pour Dipan, donc en 2015. Alors, Jacques Audiard, vous avez d'abord fait des études de sciences humaines, de lettres. Vous racontez souvent
Plutôt lettres et lettres modernes
et philo.
Voilà.
Vous vous voyez professeur ? Vous imaginiez comment à cette époque-là ?
Oui, c'était un destin qui me semblait me convenir. C'était un peu austère, je voyais c'est un peu le destin à la Peggy, les lunettes cerclées. J'ai gardé que les lunettes.
C'était quelle littérature ou quelle philosophie ou quel courant qui vous intéressait?
Non, c'était comment à l'époque, quand je fais des études de lettres, je suis en prépa, tout ça. Et vous savez comment, je sais plus, tout à coup on est confronté à Blanchot, à Richard, à tous ces gens-là, et ça indique la philo. Moi, ça m'a indiqué la philosophie. C'est comme ça. Mais j'ai pas insisté plus que ça.
Et vous avez arrêté parce que...
J'ai arrêté parce que j'ai commencé à travailler. Je me suis comme j'ai vraiment à peu près tout raté. Je me suis retrouvé à la fac. J'ai commencé à travailler. J'étais étudiant. Je prenais les cours. Je suivais les cours du soir. Je me souviens les cinq leçons de philosophie du président Mao à 21h, je vous assure que c'est un truc qui vous remet d'aplomb. Et donc je travaillais et puis donc j'ai dû arrêter, voilà, tout simplement, parce que je fallait que je gagnais ma vie.
Alors vous réalisiez des petits films déjà à cette époque-là,
oui.
Même auparavant, quand
oui.
Vous étiez étudiant. Est-ce que de votre point de vue, il y a une continuité entre ces premiers essais-là, la manière dont vous travaillez à ce moment-là, j'imagine, dans votre chambre, et le cinéma que vous faites aujourd'hui, Jacques Audiard ?
On ne peut mieux dire dans ma chambre, parce que j'avais réduit ma pratique de la prise de vue à je ne filmais que des choses que je projetais, que je refilmais, que je reprojetais. Et donc, c'était une esthétique assez particulière. Et c'est vrai que des choses sont restées, absolument, absolument.
Vous avez un souvenir d'un film en particulier? Vous pourriez nous décrire, nous évoquer quelques images?
Non, j'ai fait un film qui s'appelait Malek Adel et les Rois Mages.
Oui.
Donc voilà, c'était un film où il y avait une reprise de la descente de la cave de Psychose qui durait 12 minutes.
Et vous faisiez jouer qui?
Non, je vous dis, je refilmais, je filmais, je projetais, je jouais sur la vitesse, sur l'obturation, et j'avais une caméra très rudimentaire, mais je ne sortais pas de chez moi.
Est-ce que vous étiez cinéphile à cette époque? Quel était le cinéma qui vous...
Quelqu'un qui fait ça, à mon avis, il est un peu attaqué.
Donc, vous voyez quoi en particulier?
Quelqu'un qui filme des choses qui ont déjà été filmées, ça s'appelle la cinéphilie au cube.
Et Hitchcock ou d'autres choses?
Non. C'est une cinéphilie un peu... Je crois que, formellement, j'ai été très marqué par le cinéma muet, le noir et blanc. Quand je dis cinéma muet, c'est le noir et blanc surtout, je crois. Le noir et blanc, cette espèce d'image charbonnée, vignettée. Tout à coup, il y a des choses qui semblent venir de très très loin. Si je vous dis les Nibelungen de Lang, ça va paraître un peu curieux, mais voilà encore un film que j'ai filmé, refilmé. Ou La mort fatiguée, ou le dernier des hommes, ou le tabou, ou des choses. Voilà, le Murnau, extraordinaire. Et donc voilà, ça parce que c'est presque comment c'est ce cinéma-là, ces images-là. Je ne sais même pas si c'est du cinéma, si on peut en parler de la même façon. C'est des images de fantasmes. Voilà. C'est très, très fantasmatique.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive encore de regarder des films de manière un peu maniaque quand vous tournez, pour vous inspirer, ou au contraire,
non.
Pour trouver autre chose?
Je développais, étiez-vous cinéphile à l'époque? Voilà, j'étais de ce genre. Alors ça, c'était quelque chose de presque un peu maladif, je pense. Mais je me suis soigné, c'est plus simple.
Vous avez réalisé, j'ai l'impression, assez peu de courts-métrages. En tout cas, j'en ai pas beaucoup trouvé trace. C'est une forme qui vous intéresse pas, peu. Jacques Audiard ?
Non, ce qui m'intéressait, c'était ce que je faisais quand j'avais 18 ans. Ça m'intéressait. C'était du cinéma. Voilà, on mettrait ça dans la rubrique expérimentale. Il y avait tout un petit réseau. Il y avait un réseau de films. C'était du super vite. Il y avait un réseau pas d'exploitation mais de festival comme ça. Je me souviens que j'avais été sélectionné au festival de La Rochelle.
Pour quel film ?
Je me souviens plus lequel. J'en avais fait deux. C'était des choses courtes.
Hein. On va rentrer un petit peu dans le dur. Une grande partie de vos films
dur,
sont...
Hein,
ça va être dur.
Franchement, c'était...
Accrochez-vous. Une grande partie de vos films sont des histoires d'initiation. La question de la transmission générationnelle est centrale. Elle est souvent d'ailleurs problématique. Hein. Entre le vieux truand Marx, interprété par Trintignant, et le jeune Johnny de Regarde les hommes tomber. Entre, dans Un prophète, évidemment, le parrain corse Luciani et puis Malik.
Quand même, il s'appelle Marx. Hein.
Oui, ça, j'ai remarqué. Est-ce que ça dit quelque chose de votre propre rapport au cinéma ? Qui vous a initié, vous, Jacques Audiard ?
Qui m'a initié au cinéma ? Eh bien, je crois que... Alors, il faut que je fasse déjà une parenthèse. Ce serait presque le prologue de notre conversation, c'est que j'ai un père qui est assez connu.
Donc, j'ai pas osé le dire.
Non, mais c'est pour ça, j'ai senti cette délicatesse et j'y suis très sensible. Et non, mais c'est assez intéressant parce que comment donc j'étais enfant toujours dans un milieu de cinéma. Mon oncle était producteur, mon parrain était acteur. C'était que des gens de cinéma. Et d'une certaine façon, ça a énormément banalisé pour moi le cinéma. Et que j'ajouterais que mon père n'était pas comment. Il était cinéphile parce qu'il a été comment. Ce sont des générations, disons que les générations des gens qui sont nés dans les années 20, tout ça. Ils ont été vraiment élevés par le cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont été éduqués par le cinéma. Ce qui sera un peu notre cas, encore ma génération. Donc il avait un type de rapport avec le cinéma qui n'était pas c'était pas une révérence. Il n'avait pas d'estime considérable pour le cinéma. Le cinéma était un ascenseur social qui s'est présenté dans les années 45-47. Beaucoup de gens ont grimpé dedans. Et qui savait écrire, qui avait un talent d'écriture, ce qui était le cas de mon père, il était à l'époque romancier, journaliste romancier, le cinéma l'a débauché d'une certaine façon, mais c'était quelqu'un qui était resté d'obédience strictement littéraire, fondamentalement littéraire, et donc c'est ce qu'il va me transmettre en fait, mon père me transmet beaucoup plus une culture littéraire qu'une culture cinématographique.
Et pour autant, la manière dont vous regardiez le cinéma à cette époque-là était une autre forme de révérence ou de grande admiration dans la pratique dont vous parliez tout à l'heure.
Excusez-moi.
Cette manière de regarder des films, de les revoir, c'est une forme de déférence.
Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, alors, je ne sais pas comment qui m'a. Je pense qu'il y a le moment où je ne connais pas le cinéma. C'est-à-dire, je ne connais pas le cinéma. Et puis il y a un jour, vous avez le sentiment de connaître le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas simplement un truc d'entertainment ou je sais pas quoi. Alors il y a une chose quand même qui est importante aussi à dire, c'est que je suis pensionnaire très longtemps. Qui dit pensionnaire dit sortie courte, un week-end sur deux, un truc comme ça. Et ça dit aussi un ennui fondamental, c'est-à-dire granitique. Et donc quand je sors, j'aime tellement pas ça. Je suis dans une détestation de la chose profonde. Je suis quand même quelqu'un qui s'est fait interdire de bibliothèque au pensionnat. Tu vois, c'est quel principe éducatif fort.
Vous y passez
fort.
Trop de temps ou...
hein, c'était c'est, pourquoi c'est, ouais. J'avais un grand ami aussi qui était musicien. On avait 12 ans, 12-13 ans. Un grand musicien, il a été interdit de musique. C'était des grands éducateurs. Et donc quand je sortais, quand je me retrouvais à Paris le week-end, c'est vrai que je m'ennuyais très fort, donc j'allais au cinéma. Et c'était une époque où les cinémas étaient permanents. Vous pouviez sauter comme ça en milieu de séance. Alors, il y a beaucoup de films dont j'ai vu le début, la fin, puis un bout du milieu, enfin je sais pas. Voilà, c'était ça, peut-être que la cinéphilie c'était à ce moment-là.
quand vous parlez de votre travail, vous parliez de votre père et de l'écriture, vous parlez vous-même beaucoup d'écriture, vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé le matériau littéraire, la plupart de vos films sont des adaptations, le premier par exemple, hein, dont je parlais tout à l'heure, Regarde les hommes tombés, est né de la lecture d'un roman, qui est Triangle de Terry White. De Rouille et d'os, j'aime bien cet exemple, je le trouve intéressant, parce que c'est particulier, c'est un recueil de nouvelles de Craig Davidson, donc un auteur américain, vous n'avez pas choisi une seule nouvelle
canadien,
en particulier, canadien pardon, mais vous avez tiré avec Thomas Bidguin, donc, qui était votre co-scénariste pour ce film-là, des éléments et des personnages de chacune de 8 d'entre elles qui sont chacune très denses. Comment vous avez fait, pour prendre peut-être un exemple, avec cette complexité narrative-là?
Vous parlez de Rouille?
Oui.
De Rouille, on a adapté vraiment 2 nouvelles. Et en fait, il y en a une troisième qui est un petit peu en dessous, qui est un peu qui passe souterrainement. Parfois, j'ai pas une très très bonne mémoire de ce qui fait, à quel moment ça se passe et comment ça. Ce qui me marque dans dans les nouvelles de Craig Davidson, c'est cette tentative de trouver une forme. Oui, ça, de trouver une forme. À la pauvreté, c'est-à-dire aux gens, au déclassement, voilà. Et je trouve ça très très bien. Et en fait, c'est ce qui me et c'est donc ce qui va nous pousser dans ce qui va me pousser à en faire un film. Alors dans les nouvelles, il y avait cette histoire de parc de dauphin, pas de dauphin, d'orque.
Et
voilà. Si je me souviens bien, le personnage, le héros, c'était un héros, c'était pas une héroïne, c'était un garçon. Et je me souviens plus trop de. Oui, il y avait aussi cette nouvelle de boxeur ou je sais plus quoi.
Mais
je m'en souviens pas bien. Je suis désolé.
Il y a une histoire de boxeur. Il y a en effet une histoire de oui. Plein d'éléments qui sont dans votre film.
Et je sais que ce qui nous poussait à ce moment-là, comment chaque film pousse un tiroir, on en trouve un autre. Il y en a un qui se referme et un autre qui s'en trouve. Alors ça vient de Rouille. Ça vient après Un prophète. Un prophète, c'était un film où, bon, c'était dans les prisons, donc il n'y avait pas de femmes, j'avais très envie d'écrire travailler un personnage féminin. Un prophète est une chose très noire, très dense. J'avais envie d'un mélodrame. Mélodrame, j'entends par mélodrame, un excès de fiction, un excès de fiction, que la fiction ne cesse pas de générer de la fiction, voilà. Contrairement à Un prophète, où on était dans le quatre murs, la fiction essentielle, c'est finalement quand allait-il sortir, voilà. Et là, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc,
vous vous souvenez pas de la première scène que vous avez tournée, par exemple, pour ce film-là?
Non. Bah, vous êtes dur, là. Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens d'une chose, c'est que je voulais. C'était compliqué parce que il y avait cette histoire d'amputation, à quoi ça ressemblait. Donc on travaille pendant tout le film avec les bavers. Vous voyez, Marion avait des bavers. Et je sais que je me souviens pas des premières images que j'ai tournées, mais je me souviens du premier jour avec Marion.
Marion Cotillard,
parce que moi je voulais qu'on puisse répéter quand même un peu avant. Elle n'avait vraiment pas pu, elle, parce qu'elle était sous contrat de, je sais plus quel gros film américain.
Je crois que c'était Batman.
De Batman. Mmh. Voilà. Et elle venait d'avoir un bébé, tout ça. C'était très très. Résultat, je l'ai le jour du tournage. Elle arrive vraiment la veille, le jour du tournage, et la scène que je dois faire avec elle, la première scène, c'est la scène où elle découvre qu'elle a les jambes coupées. Et j'avais trouvé ça raide. Voilà, je savais pas. Alors c'est intéressant parce que voilà, d'une certaine façon, elle m'indiquait, là, comme c'était très, très, très surjoué sur les premières prises, elle m'a indiqué d'une certaine façon où elle mettait le curseur du personnage. Et moi, ça m'a permis de redescendre le curseur et de lui dire, voilà, non, ça sera plutôt dans cette zone-là. Mais on préfère avoir un peu plus de temps pour préparer.
Quand vous travaillez comme ça à partir de textes, de romans ou de textes littéraires, est-ce que vous y revenez tout au long du processus du tournage, ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter
du tournage? Fini. Non, je pensais que vous alliez dire de l'écriture. Alors, de l'écriture, j'y reviens beaucoup, et puis à un moment donné, ça s'arrête quand même. Mmh. Et on sent bien que l'objet qu'on a fait, l'objet scénario qui a été produit d'après cet objet littéraire, c'est très très écarté et qu'il n'a plus grand-chose à attendre de. C'est un autre objet, en fait. Voilà, c'est essentiellement autre chose.
Pour débattre, Mon cœur s'est arrêté en 2005. Le point de départ, pour le coup, c'est un autre film, un précédent film, Mélodie pour un tueur de James Toback, sorti en 78. Est-ce qu'on travaille de la même manière, justement, à partir d'un film qu'à partir d'un livre?
Alors, on ne travaille pas. Oui, juste, parenthèse, c'est que, comment on parlait de cinéphilie tout à l'heure, Fingers, ça appartenait pour moi vraiment, ça appartenait à un moment de cinéphilie absolument extraordinaire. Enfin, qui n'a pas vécu les années 70, disons 69, 75, a perdu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu tellement de choses apparaître, mais en direct. Et Fingers, alors, il fallait pas le revoir après. C'est un film qui est un peu inégal. Alors oui,
non. Vous l'avez revu pour le coup?
Oui, bien sûr, je l'ai revu. J'ai revu Fingers. J'ai été très déçu. Parce que je pense que mes souvenirs avaient beaucoup, beaucoup brodé dessus. Mais c'est différent. J'ai compris tout de suite qu'il y avait une esthétique, disons, pour faire large, new-yorkaise, qu'il fallait, mais absolument, il ne fallait pas s'y arrêter une seconde. Que c'était à partir du moment où on substitue à la mafia, ce truc-là, le milieu de l'immobilier, mm-hmm. Ça y est, c'est fait. Je veux dire, d'une certaine façon, on a fait la chose.
Dans un grand entretien que vous avez donné il y a déjà plusieurs années à Télérama, vous avez beaucoup parlé d'une forme de douleur d'écrire. Qu'est-ce qui est si douloureux dans l'élaboration d'un scénario pour vous?
Oh, c'est difficile. En plus, quand on dit douleur, ouais, il y a des choses beaucoup plus douloureuses dans l'existence. Mais c'est pas. Je m'aperçois d'une chose, voilà. Moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de capitalisation de l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis devant l'écriture, que j'entame l'écriture d'un scénario, je suis égaré. C'est-à-dire que je ne me souviens pas que j'ai déjà vécu ça avant, que j'en ai parlé dans des termes. Alors, les gens qui vous aiment laissent passer la chose. Ceux qui vous aiment moins, vous dites t'es gâteux là. Bon. Voilà, il n'y a pas de capitalisation, mais c'est pareil sur le tournage d'un film. Ça, c'est l'idée qu'on se fait. Parce que moi, je sais bien que j'en sais beaucoup plus long que pas mal d'autres personnes et que le scénario, je vais y arriver. Mais combien de fois je me rejoue la scène de voilà, ça, c'est terminé, on arrête. On arrête, on fait plus. Ah non, ça, j'en peux plus de cette merde, là, c'est pas possible. Non, voilà, on arrête et puis on continue, en fait. On doit jouer, c'est psychodramatique.
Ça doit pas être facile pour vos co-scénaristes que vous avez toujours, puisque vous écrivez à deux mains.
Oui,
toujours.
Non, je pense que je suis un bon confrère. Je suis plutôt. Non, mais heureusement, voilà, je peux pas travailler seul. C'est bien d'amener à ce moment de la conversation. Je ne peux pas travailler seul. Et je pense que le fond du fond de ça, c'est ce qui distingue, mais essentiellement l'écriture scénaristique de l'écriture littéraire. C'est que je ne pourrais pas travailler seul sur un scénario. J'aurais trop peur, moi, de jouer l'auteur.
Comment ça se passe concrètement une écriture de scénario à deux mains? Est-ce que vous avez toujours le même rôle avec, par exemple, Thomas Bidguin qui a été votre scénariste, co-scénariste
avec Tonino
Benacquista
et Alain de Henri. Comment ça se passe?
Ça fonctionne de la même manière?
Non, pas du tout. Tonino, c'était il est écrivain, donc il travaillait les après-midi sur ses romans et consacrait les matinées au scénario. Mais donc c'était moi, au sens strict, qui écrivais. Mais il était un peu mon juge de paix. C'est lui qui lisait et puis après il passait, il reficelait une version. Avec Tom, on écrit à égalité. Vraiment à égalité. Mais il y a cette phase d'écriture qui est une chose, mais qui vient tard, hein, qui vient assez tard. La première phase, c'est une phase vraiment de construction, de bureau, de discussion, où on laisse quand même l'imagination travailler librement.
Vous parlez beaucoup de situation plus que de scène. J'ai remarqué quand vous parlez d'ailleurs du tournage. C'est quoi la différence pour vous entre situation et scène?
C'est terrible parce que je risque de faire une réponse qui, si je l'écoute, je vais me mépriser au dernier degré. Donc j'hésite, hein, forcément. Non, c'est pas. Non, je n'oppose pas. La situation sera dans la scène, la séquence. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui fait séquence, qu'est-ce qui fait scène. Je ne sais pas. Mais la situation, c'est un système qui va généralement poser un conflit. un conflit qui va se résoudre dans la scène et qui fait que les personnages ou l'un des personnages ne sortira pas de la même façon qu'il est entré dans la scène. Bon, c'est un peu bébête ce que je dis, mais c'est ça.
Vous dites que votre père considérait le cinéma davantage comme un métier, ce que vous nous disiez tout à l'heure, que comme un art. Est-ce que c'est votre cas aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une manière de penser le cinéma comme une fabrication, comme un objet fondamentalement artisanal?
Par exemple, c'est que alors les temps ont changé, les productions ne sont plus les mêmes. Et mon père a écrit énormément de films. Quand j'ai fait l'inventaire de sa carrière, il y avait des années, il en écrivait 3-4. C'est considérable. Alors parfois, il se contentait de faire les dialogues, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il n'avait pas de. Je pense que oui, il le considérait pas comme. Oui, il le considérait strictement comme un métier qu'il savait faire, un métier pour lequel on l'engageait. Et c'était même un métier, c'était presque un OS, parce qu'il se limitait au dialogue, vous voyez, parfois. Alors moi, non, oui, j'ai pas tout à fait la même position, que c'était d'ailleurs plutôt des sujets, je vais pas dire de conflit, mais j'étais pas forcément du tout d'accord avec lui. Moi, je pense que le cinéma, c'est vraiment une façon d'entretenir un rapport avec le monde. C'est dit un peu pompeusement, de manière un peu pompeuse, mais c'est ça. Moi, j'entretiens, disons que le seul, un des rapports que j'aime avec le monde, ça passera par le cinéma.
Je vous pose aussi cette question parce que je sais que vous avez fait du montage dans un premier temps, et le montage, surtout avant le numérique, c'est quelque chose de très artisanal. Comment est-ce que vous l'abordez aujourd'hui, cette étape-là, en ayant cette expérience de monteur?
Le montage, pour moi, pourquoi j'ai aimé le montage, en fait? Parce que quand je commence le montage, vraiment j'ai l'impression de voir la Vierge. C'est une chose, c'est facile à comprendre aussi. C'est que le montage, c'est de l'écriture, c'est des formes, on fait des phrases, on articule ces phrases, puis ça fera un paragraphe, ça fera une séquence, etc. Mais c'est vraiment ça. Et la façon l'intervention qu'on pourra avoir au montage sera d'inversion, comme si on inversait des phrases, de raccourcissement. Enfin, voilà, c'est vraiment, et même dans l'écriture, dans le fait de faire se télescoper des images comme des idées. C'est voilà. Alors, il se passait une chose, c'est que quand vous montiez, disons, en analogique, quand vous étiez sur de la pellicule, c'était un objet que vous alliez couper. Alors, au bout de, quand vous aviez déjà fait, 2-3 projections de montage, la copie était dans un état effroyable, elle était scotchée de partout, on recommandait des plans, hop. Et que je pense, très sincèrement, je pense que les montages s'arrêtaient, parce qu'il y avait une fatigue des êtres et une fatigue du matériel. C'est qu'on ne pouvait plus aller plus loin dans la recherche des grosses... On ouvrait des grosses boîtes pour aller chercher des chutes, des trucs. On avait épuisé le matériel. Le matériel était épuisé. Aujourd'hui, avec le numérique, on est confronté à cette chose. C'est infini. Ça peut ne pas s'arrêter.
Et vous êtes épuisé, du coup.
Oui,
l'épuisement,
Je m'en remets énormément à ma monteuse. Voilà, Juliette Welfling, comme j'ai une nature un peu hystérique, j'ai du mal à tenir en place dans une salle de montage, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que moi, il faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai un rapport à l'ennui qui est épouvantable. Et c'est Juliette qui va vraiment être l'ordonnatrice de la chose et qui va à un moment siffler la fin de la récré, quoi. Et après, on a aussi des calendriers de sortie, de distribution, des choses comme ça. Mais disons que c'est Juliette Welfling qui dit que c'est fini.
Les petits lieux clos. Comment on filme justement ces lieux-là? Je pense à une scène dans Un prophète, qui est centrale dans le film, puisque c'est la scène de fusillade. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça, parce que c'est tout petit, c'est dans un 4x4 en fait. Donc il y a beaucoup de personnages impliqués.
C'est amusant.
Et voilà, t'as Araïm, donc, qui joue le personnage de Malik, doit tuer, bon finalement il ne le fait pas, un des patrons de la mafia corse, ou de la mafia italienne plutôt. Et vous avez filmé dans une sorte d'aquarium. Enfin, vraiment, c'est uniquement dans une voiture. Comment vous avez abordé cette scène-là, par exemple?
Il y a toujours des scènes de violence dans mes films. Et c'est franc, j'aime pas ça du tout. C'est très dur à filmer. D'abord, je n'aime pas ça. Et surtout, ça va être toujours très compliqué. Cascadeur, coup de feu, tout ça. Bon, ça commence à faire intervenir beaucoup de corps de métier. Il faut les préparer longtemps à l'avant. Et c'est vrai que vous êtes, une fois que la chose a été pensée, il faut s'y tenir.
parce que ça va être à chaque fois, chaque écart de caméra risque de coûter quand même beaucoup d'argent ou risque de ruiner tout simplement la scène. Il y avait cette scène qui était dans l'horizon du scénario, comme ça, alors c'était écrit, et puis donc, pendant la préparation, on en parle. Et c'était, je la trouvais tellement médiocre. Je me disais, mais comment je vais faire ça? Parce que dans le truc, il arrivait, boum, et puis il tuait les gens dans la voiture, je sais pas, Alexis. Et je me suis dit, et donc, je pense que ça, c'est une façon de penser qui se répète chez moi. C'est que je me suis demandé, mais comment rendre juste cette chose intéressante? Qu'est-ce qui ne se, la rendre intéressante dans le cas, dans ce cas-là, dans le cas par exemple, d'une fusillade, de cette chose-là, c'est prendre en compte, comment, l'irréalité absolue de cette chose-là et la rendre comme acceptable. L'irréalité, c'est que ça puisse se passer dans 1,50 m. Voilà, ça c'est, et que le jour où je me suis dit, tiens, voilà, il rentre dedans, la porte se ferme, il peut plus sortir. Là, ça devient intéressant. Il y aurait d'autres choses aussi. Enfin, je peux en citer d'autres, mais c'est excéder complètement la vraisemblance de cette situation-là. Voilà.
C'est aussi une certaine manière de contourner la violence, justement, que de faire avec des effets.
À ce moment-là, je pense qu'on est dans une zone de stylisation maximum. Ça, c'est certain. Oui, bien sûr. Et puis ça, pour moi, je crois que les scènes de violence dans les films que j'ai pu faire, c'est comme si elles ont une fonction. Je crois que j'ai découvert ça. Je suis pas peu fier. C'est d'interroger la vraisemblance et l'adhésion du spectateur. J'avais eu un choc. Moi, il y a deux choses qui sont toujours fausses au cinéma, qui sont fausses. On sait que c'est faux et on l'admet comme étant faux. C'est les acteurs font l'amour. On ne le verra pas, les gars. Ça, arrêtons. Ou alors, on est dans un cinéma spécialisé.
D'ailleurs, il y en a très peu dans votre cinéma.
Oui, non, mais moi, c'est pour ça que je fais de rouiller d'os. C'est pour ça que je coupe les jambes à Marion Cotillard. Il y a une fonction érotique assez claire. C'est pas. C'est l'amour, c'est l'amour physique et la violence. On sait que c'est faux. On sait que le coup de poing, l'acteur ne le prend pas. J'ai besoin de ça à chaque fois. Pour excéder justement la vraisemblance de mon projet. Je veux au bout de cette chose-là. Jusqu'à un point, c'est que dans le dernier film, j'ai fait tirer un trait au milieu de la dalle par le personnage. Voilà. Ou au-delà de cette ligne, on change de genre.
Est-ce qu'il y a des scènes de violence dans le cinéma qui vous ont marqué et qui vous ont servi justement comme outil ou comme référence, Jacques Audiard?
Marqué, je pense que. Je pense que oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais peut-être que les plus marquantes, c'est vrai que comment la fin de Taxi Driver a forcément marqué, mais plus que ou Deer Hunter, c'est vraiment mémorable parce qu'on sent au fond de soi qu'elles disent autre chose que ce qu'elles montrent. On ne sait pas trop quoi, mais elles disent autre chose. La révélation dans Taxi Driver, peut-être que c'est tout d'accord, le monstre qui est en lui, c'est possible.
Je vais revenir à votre première expérience.
Et j'ai vu beaucoup de films quand j'étais adolescent. Il y avait des salles spécialisées, n'ayez pas peur. Vous savez comment il y avait le Styx, le Colorado, c'était des salles d'épouvante, de science-fiction, d'épouvante, de vampires. J'aimais beaucoup ça.
Vous aimez plus ça?
Non, je trouve ça un petit peu bête. Non, ça y est, j'ai décrypté les symboles.
Je vais revenir à votre premier film, sauf Regarde les hommes tombés.
Oui, pardon,
je ne vais pas revenir. Vous dites beaucoup que du point de vue relationnel avec l'équipe sur le tournage, ça a été difficile cette première expérience-là. J'imagine que c'est normal, comme toute première expérience. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez changé par la suite?
Ce que j'ai appris, c'est que je vais pas faire de démago imbécile. J'étais pensionnaire longtemps. Je déteste les sociétés d'hommes. Le mec en groupe est une chose difficile pour moi.
Vous en filmez beaucoup.
Non, mais je les filme après. Ils sont ratatinés. Quoi. Ils n'ont plus grand chose à proposer d'autre que leur carcasse. Hein. C'est pas. Non, justement, je suis assez soucieux de ça. C'est des femmes, hein, mes personnages masculins. Vraiment, hein, je trouve qu'ils sont. Oui, non, franchement, non, parce que j'en parle en connaissance. Voilà, je n'aime pas ça. La société virile, la société des hommes entre eux, est une chose. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et le premier film, ça a été ça. Donc, j'ai pas aimé. Donc, oui, ce qui s'est passé, j'ai rectifié tout ça pour le deuxième. Et voilà.
Vous aviez en effet beaucoup d'acteurs masculins sur ce tournage-là. Vous aviez Mathieu Kassovitz, Jean-Yann, et puis Jean-Louis Trintignant.
Pour moi, Jean-Louis Trintignant, Mathieu, c'est des filles. Hein. Vous avez entendu la voix de Jean-Louis? C'est un truc, ça fout les poils au garde à vous, comme on dit.
À propos justement de ce premier choix d'acteur que vous aviez fait, j'ai vu le film récemment pour la première fois et ça m'a surpris de voir que vous aviez choisi Jean-Yann et Jean-Louis Trintignant en 1993, puisque c'était à peu près à ce moment-là, je pense, que vous aviez le projet du film. Est-ce que c'était une manière de regarder vers un cinéma du passé? Comment vous l'interprétez aujourd'hui, ce casting-là?
Je ne l'interprète pas. Je n'ai pas revu le film serait un mensonge parce qu'il a fallu le restaurer. Mais je n'arrive pas à le voir en entier. Donc j'en ai vu des bouts. J'ai beaucoup aimé la restauration. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la version que vous avez vue, mais je trouve que c'est mieux que l'original, presque. Pourquoi ce casting-là? Non, ce casting-là, c'est très très simple. Moi, je veux dire j'ai pas fait preuve d'une imagination. Là, c'était pas mes nostalgiques. Ça, c'est tout simplement comment le Jean-Louis Trintignant, pour moi, c'est définitivement Ma nuit chez Maud. Pour moi, c'est un des hommes. C'est donc l'homme le plus séduisant de sa génération, le plus intelligent, le plus séduisant. Qu'est-ce que c'est que de parler à une femme? Voilà, on appuie sur le bouton Jean-Louis, c'est merveilleux. Et puis d'autres choses. C'est un acteur extraordinairement talentueux. Et puis Jean-Yann, je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que je l'aimais beaucoup et qu'il était. Si je vous dis qu'il ressemblait à mon oncle, ça va pas vous.
C'est de pas... Jacques Tati?
Non, non, votre oncle. Mon oncle Jean-Paul.
Parce que je vois pas de rapport avec Tati.
Non, moi non plus. C'était juste. C'est parce que je me souviens plus pourquoi. J'avais toujours été impressionné. Je pense que quand même ça vient de Que la bête meurt. Raisonnablement, ça doit venir de là. C'est très impressionnant, quoi.
Quand est-ce qu'il intervient le choix des acteurs chez vous, Jacques Audiard, dans le processus de fabrication? Je pense à nouveau à De Rouillé d'Os, parce qu'il y a une sorte de panel assez contrasté. Il y a Mathieu Schoenaert, bon, maintenant on le connaît bien, mais à l'époque il était moins connu, on l'avait découvert dans Bullhead, qui était un film flamand. Évidemment, Marion Cotillard, vous en parliez, qui sortait de l'énorme succès de La Môme, succès mondial. Et puis par exemple Corinne Massiero, qui joue la sœur d'Ali, qui vient elle d'un autre type de film plus social, qui s'appelle Louise Wimmer, donc qui est très marquée par ce rôle-là. Comment ils sont intervenus, ces différents choix? À quel stade?
Sur ce film
aussi? Oui, par exemple.
Ça serait pas forcément le plus représentatif, mais je vous réponds très facilement. Marion, je sais que comment j'avais, ayant le désir d'écrire un rôle de femme, je n'y ai pas pensé en écrivant, mais une fois que ça a été écrit, et ça vient très très vite, je savais que c'était elle. J'avais très très envie. Elle avait une espèce de séduction virile que je trouvais vraiment vraiment ensorcelant. Et Mathias, j'ai fait beaucoup de, au tout début du casting de ce film là, je voulais, alors Marion c'était sûr, et je voulais un acteur masculin qui n'en soit pas un. Voilà. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de casting dans les salles de boxe, toutes ces choses-là. J'ai trouvé des gens absolument remarquables, mais j'ai compris une chose en les voyant jouer, que je ne pourrais pas, dans tous les cas, contrôler, c'est que je pense que face à Marion Cotillard, ça aurait été très difficile pour eux. Ça aurait été difficile d'exister face à Marion. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu Bouled, et puis voilà, et j'ai vu Mathias, et c'était fait.
Vous aviez déjà écrit tout le film?
Oui. Là, oui. Oui, non, à chaque fois, j'ai tout. C'est comment le casting commence pour moi, mais vraiment, quand c'est terminé. Mais ça va très, très vite. Un film, comme je me souviens de... Là, je reviens dessus, parce que ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'évidence. Vous avez pu écrire pendant un an, des choses comme ça, sans vous représenter, mais vraiment sans représentation précise de quel acteur pour tel rôle. Voilà. Et tout à coup, vous avez terminé. Vraiment, les figures se dressent devant vous, et c'est ça. Comment sur mes lèvres avec Emmanuel, c'était vraiment avec
Emmanuel DeVos.
C'était vraiment vraiment évident, vraiment évident. Or, je n'y ai pas pensé pendant tout le film, pendant toute l'écriture.
Avec Un prophète, vous avez un petit peu changé de méthode, puisque pour la première fois, vous cherchez un acteur inconnu pour interpréter donc ce fameux héros Malik, qui est un jeune truand qui rentre dans la centrale en prison, qui va gravir. il rentre en prison.
Non, j'insiste, excusez-moi, c'est qu'on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas s'il est arabe ou pas, et on ne sait pas ce qu'il est du tout. Il a eu un problème parce qu'il s'est battu, il a eu une rixe, mais c'est pas un voyou, c'est plutôt un SDF.
En tout cas, pour ce personnage-là, pour le coup, vous avez testé une forme de casting un peu différente, puisque vous vouliez un visage inconnu dans le cinéma français. Comment vous avez procédé?
Ah non, je voulais inconnu dans le cinéma français. Qu'est-ce que vous entendez par inconnu?
Qui ne soit pas marqué, qui soit une pure surface. D'accord. Sur laquelle vous pouvez imprimer.
Oui, exactement. Alors comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé, ça peut paraître un peu bizarre, mais je l'ai trouvé, je suis allé voir, j'avais un copain qui tournait une série, en banlieue, et je suis allé le voir comme ça. Et en revenant dans la voiture de production, il y avait deux jeunes acteurs, dont Tar. Et voilà, je savais que c'était lui. Je sais pas comment vous dire, c'était une évidence, voilà. Et ça n'a pas été facile parce que à un certain moment, dans la préparation, je faisais des essais comme ça. Et puis il avait peur. Tar, c'est difficile. Moi, j'avais peur. Lui, il avait peur. Et à un moment, il y a eu, j'avais vraiment trop de doutes, quoi. Mais donc voilà, puis ça a continué. Puis c'est vrai que c'était vertigineux. On ne sait pas. On s'en remet beaucoup à l'autre, hein, dans ces cas-là. Vous voyez, c'est pas quand vous prenez, je ne sais pas comment dire, un acteur dont c'est le métier. Déjà, c'est terrible. C'est déjà un peu particulier de l'entendre comme ça. Mais vous allez toujours avoir, il y a une espèce de confiance. Comment vous dites, ah oui, pourquoi? Parce que je l'ai vu dans tel film. Quelqu'un que vous désignez comme acteur, il va attendre ça. C'est ce qu'il va attendre de vous. Il va attendre de votre regard. Il veut voir dans votre regard qu'il est acteur. Sinon, il ne le sait pas vraiment. Ou alors il le sait, mais d'une façon particulière. Quand vous prenez un acteur non professionnel, il va assez régulièrement penser que vous l'avez choisi pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, son déplacement dans l'espace, comment son phrasé. C'est une erreur complète. On le prend pour autre chose, pour un potentiel qu'on sent en lui, mais pas pour qu'il fasse simplement qu'il déploie son petit programme personnel. Ça, c'est un problème que j'avais. C'est pas un problème. C'est le métier même avec Anthony sur Dipan. Anthony, bon, il y avait cette chose linguistique qui était un peu particulière, mais comment Anthony, il pensait naturellement que je l'avais pris pour ce qu'il était. C'est comme ça, ce qu'il donnait dans l'espace, cette façon. Non, c'était pas ça. Je voulais qu'il crée un personnage là-dedans. Mais à partir de son enveloppe. Et ça, c'est assez difficile c'est assez difficile, voilà. Je trouve que c'est une des choses difficiles quand on travaille avec un non-comédien.
Comment vous avez fait, justement, par exemple, avec l'acteur de Dipan,
avec Anthony, ça s'est fait parce qu'il y avait d'abord, j'étais très, très, très occupé. Il fallait que je fasse. J'avais pas mal de problèmes à résoudre. C'était un scénario très vertigineux parce que très, très éthique, quoi. C'était un pauvre scénario. Quand je dis ça, c'est une qualité. C'est un pauvre scénario. Une petite chose, quoi. Il y avait pas. Et c'était. Faut faire attention. Et donc, avec Anthony, j'ai repéré ça assez vite. Il y avait une espèce de chose où il ne marchait pas bien. Il restait lui-même. Il ne faisait que des variations de voix, comme ça, où tout à coup sa voix passait du coffre au plus nasal. Comme ça commençait à couiner un petit peu. Et en fait, j'ai pensé que c'était pas à moi de le faire, parce que de l'entraîner, de lui proposer autre chose, si j'observais tous les changements de manière, je n'allais pas avoir de surprise. Donc je l'ai confié à un ami, à Serge Boutlerov, qui l'a coaché. Puis tout à coup, je l'ai revu après. Il s'était métamorphosé. Il avait compris quelque chose. Il se tenait différemment. Il ne boulait plus le texte. Il parlait, voilà. Il s'était redressé.
Ces acteurs que vous avez fait jouer dans Dipan, donc qui est votre dernier film que vous avez choisi et qui sont des visages qu'on voit peu dans le cinéma français, ça c'est quelque chose qui est important pour vous.
Des visages qu'on voit peu, des Tamouls.
Oui.
Ah ben non, on n'en voit pas.
Voilà, mais ça c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup. Vous avez parlé aussi des visages arabes comme de visages qu'on voyait peu dans les années 2000 dans le cinéma français. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué? Depuis Un prophète, par exemple.
Ce que je vois, ce que je peux constater avec beaucoup de je ne vais pas dire de fierté, ce serait un peu bête, mais avec une certaine satisfaction, c'est que des trois quarts des acteurs que j'ai qui ont joué dans Un Prophète, ben on les a revus ailleurs. Et puis pas dans des trucs de forcément de voyous, vous voyez, des trucs crasseux, non, d'autres choses. Et ça, oui, je trouve ça très très bien. Oui. C'est-à-dire, il y a une lassitude du casting franco-français. C'est terrible pour moi.
Est-ce que vous êtes un réalisateur qui fait beaucoup de prises sur le plateau ?
Je vous ai dit que je m'ennuyais. Vous retenez rien du tout.
Ça peut être extrêmement divertissant de refaire.
Non, je m'ennuie. Non, c'est pas ça, je plaisante. Non, après, ça dépendra aussi. Ça dépend du comédien aussi. Ça dépend d'un ensemble de choses. Mais disons que si je me mets du côté du comédien, il y a des acteurs qui demandent, qui ont envie, qui appellent plus de prises, qui se chauffent. Vous sentez qu'ils ont un truc de voilà, ils s'échauffent. Comment les premières prises seront juste de l'échauffement. Ils seront de mieux en mieux. Il y a d'autres acteurs, c'est exactement l'inverse. Mais là, j'enfonce une porte ouverte. Par exemple, avec Marion, on faisait beaucoup de prises. Mais c'est très bien. Et puis comment moi, je me souviens, ça me tuait. Ça me fatigue. Romain Duris, il était d'une précision, mais c'était millimétré. Il retenait tout. Vous pouviez changer les places, les déplacements, tout ça. C'était à côté, comment on appelle ça, les motion control, tout comme ça. Et vous le jouez, il pouvait le jouer de 4 ou 5 façons différentes à chaque fois. Alors au milieu de la scène, tac, il faisait ça, il faisait telle modulation, telle inflexion, tel truc. Hop, il accélérait. Et je dis, alors on va prendre le milieu de là, et puis tu te souviens du truc, et tac, il dit oui. Et on vous faisait toute la scène comme ça avec. Et au bout d'un moment, je savais plus. Donc je disais, bon, ben, je crois que c'est bien, on a fait le tour de la question. Mais c'est impressionnant, voilà. Alors, je pense qu'on peut avoir. Parfois, je me dis, tiens, je vais pas assez loin. Il faudrait que j'aille plus loin. Mais c'est, on ne sait pas, je ne sais pas.
Vous avez travaillé au théâtre, j'ai lu, dans les années 70-80. Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de cette expérience-là, notamment dans la manière de peut-être de diriger les acteurs ou d'entendre les acteurs.
Vous savez, c'est comment. C'est voilà, juste comment. Je pense que. Et d'ailleurs, j'ai fait les deux. Ce qu'un jeune spectateur a pu voir entre 1968 et 1978 sur la scène, sur les scènes européennes, c'était absolument exceptionnel. C'était, je pense que le théâtre a été pour moi une chose très très exaltante. Je pense que au moins, peut-être plus parfois que le cinéma, mais au moins à égalité, non, plus pour certaines fois, vraiment plus. Que j'ai eu la chance de connaître un peu Chéreau, de Patrice, comme ça, que je suis allé 2 années de suite aux répétitions à Bayreuth. Alors oui, c'est bien sûr le rapport avec les comédiens. C'est comment. Quand moi je réalise assez tardivement, je dois avoir 41 ans ou 42 ans, je suis pas un perdreau de l'année, comme on dirait. C'est étrange et c'est terrible ce que je vais dire, c'est que je crois que je sais tout. Je sais le latin. J'ai pas je suis pas surpris. Ça veut pas dire que je ne suis pas paniqué, que je n'ai pas peur, que je reviens au thème précédent. J'ai peur de tout, mais je crois que j'ai peur de l'autre surtout. Mais je sais comment techniquement je suis assez armé, le théâtre m'a appris à adorer les comédiens, à les regarder vraiment. Quand je dis les adorer, oui, c'est de l'adoration. C'est pas un amour simple. Je suis pas ami avec les comédiens avec lesquels je travaille. Mais c'est vraiment de savoir d'où est-ce que, comment ça va arriver, où est-ce qu'il va chercher ça, bon Dieu. C'est extraordinaire.
Vous avez jamais voulu faire de mise en scène de théâtre?
Si, mais c'est trop tard.
Non.
Ça prend du temps, mademoiselle.
Certes. Vous avez aussi été très fascinée par le rock, par les films aussi sur le rock des années 70. J'ai lu ça. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Vous avez cité à plusieurs reprises comme référence, je crois que des films sur Woodstock ou des films sur Bob Dylan que vous avez beaucoup aimés et qui ont pu vous marquer.
C'est souvent des réalisateurs, mais comment pour moi un film très important, Continental Circus de La Pérouse. C'est un film sur un groupe qui s'appelait Gong aussi, mais c'est sur la motocyclette, c'est pas sur les courses de moto. Mais oui, pas qu'à ce moment, Montré Pop, c'est des trucs extraordinaires. Mais je sais pas, oui, vous voulez en venir où?
parce que vous avez filmé, alors d'une part la musique, on va y revenir, est très importante dans votre cinéma, mais d'autre part vous avez réalisé plusieurs clips musicaux, on vous doit notamment La Nuit Je Mens d'Alain Bachung en 98, pour laquelle je crois que vous avez d'ailleurs eu une victoire du meilleur clip aux Victoires de la Musique. Un clip, est-ce que c'est un film, vous qui n'aimez pas, qui n'avez pas la pratique du court-métrage, c'était... est-ce que le clip c'est un petit film comme les autres pour vous, Jacques Audiard ?
Non, pas du tout, c'était, alors, c'est bizarre parce que je crois que vous aviez évoqué ça au début de... On va dire notre masterclass.
C'est ça.
Notre entretien. C'était, comment ça avait beaucoup à voir avec ce que je faisais quand j'étais avec le Super 8. C'était beaucoup plus pour moi un retour très évident au Super 8. Et c'était très agréable. C'est que je continue à faire comme ça ces petites choses. Bon, expérimental, c'est un bien grand mot, mais j'utilisais des mêmes choses, des effets d'accélération, décélération, de variation, d'obturation, voilà, des choses comme ça.
Je vais venir quand même à la.
J'ai eu la chance de travailler tout de suite pour Bachung, qui était un artiste que j'aimais beaucoup beaucoup, que j'aime toujours autant d'ailleurs. Puis Louise Attaque, tout ça. Après, ça m'a moins plu. Voilà.
Parce que vous avez plus trouvé d'artiste qui.
Parce que
qui vous
le.
Tant.
C'est possible. C'est possible. Et puis je crois que je suis passé à autre chose. Voilà, j'avais fait pour moi en tout cas. Non, c'est faux. J'aurais adoré continuer. J'aurais aimé reprendre il y a pas très longtemps, mais justement en étant en numérique, j'aurais bien aimé. C'est-à-dire que je vois des choses quand même très très belles, vraiment des belles images. Je vois des choses vraiment bien.
Parmi les clips, vous voulez dire?
Oui, bien sûr. Oui.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Parce que fait Gavras, c'est vraiment beau. C'est quand même pas mal.
La musique, elle est essentielle dans vos films, mais souvent elle intervient dans des moments particuliers, des moments où la perception des personnages et donc celle des spectateurs se déforme ou se brouille un peu. Elle est souvent associée au ralenti. Alors je pense à deux scènes, je pense à la scène où Marion Cotillard, donc alias Stéphanie, tombe dans la piscine où elle va se faire attaquer par les orques qu'elle élève et qu'elle montre en spectacle. Je pense aussi dans Un prophète, au passage où...
Vous l'avez vu comme ça, l'accident de Marion ?
Oui.
Je vais aller,
il y a une autre version.
On va le remonter. Bon. Non, c'était pas ça.
Je pense aussi à une scène, alors peut-être que je me suis à nouveau complètement trompée sur le sens de cette scène, dans Un prophète, qui est une des scènes cruciales, où il est dans la voiture, à l'arrière de la voiture, il a un pistolet sur la tempe, et il va avoir cette fameuse vision, la vision du chevreuil heurtant la voiture. Ça, c'est des moments où la musique devient très importante. Qu'est-ce qui la rend nécessaire, justement, à ces moments-là, à ces moments particuliers du film ?
Je me souviens pas très très bien de. Ah si, c'est étonnant que vous me citiez ce moment-là parce que c'est Coup de Lame. Ben si, je vous le dis.
Peut-être.
Non, mais c'est très étonnant. C'est parce que moi j'entends. Qu'est-ce qui va C'est parce que je. Parce qu'un soir, une nuit, je rentre du tournage, voilà, et j'entends un truc qui me secoue à 4h du matin, et c'est Coup de Lame, c'était ce morceau-là. Alors pourquoi je l'ai mis là, et pourquoi dans ces moments-là, je ne sais pas. Je peux pas trop, je sais pas. Je suis Joker.
Comment vous le travaillez? Alors je vais vous poser un peu la question.
Je peux répondre de manière plus. Alors, sur ce moment précis, parce que c'est quand même. Voyez, c'est troublant. C'est que vous me posez des questions sur. Parce que vous avez vraiment. C'est bien. Vous avez vu les films. Ça, vous m'interrogez. Mais moi, j'ai oublié, madame.
je m'en rends bien compte.
Mais là, c'est pas ça. Mais sur un truc comme ça, je suis obligé de m'en tenir au général.
Non, mais même en général, c'est vrai, la manière dont vous utilisez la musique, quand est-ce que ça
alors,
vient
alors voilà, comment... C'est que je pense qu'il y a eu un avant et il y a eu ce qui se passe. Mon rapport avec la musique, c'est il y a eu une frontière, ça a été Un prophète. Je veux dire, par là, par rapport à un usage, c'est que disons que tout ce qui se situe avant Un prophète se fait et pour moi, je pense la musique et on l'a fait de la même façon. Je travaille depuis le début, on a commencé à peu près ensemble avec Alex, avec Desplat, avec son Desplat. C'est une conception assez classique, hein, de la chose, avec c'est du score, voilà. À partir d'Un prophète, pour des raisons propres à la structure du film, Un prophète, il est écrit. C'est bizarre qu'on en parlait. Il est écrit comme une. Il est plus dans un schéma d'écriture de série télé que de film. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un film. On le sait en s'engageant dessus, qui fera plus de 2h30 ou plus. Il l'a fait juste 2h30. Qu'on est dans des. Là, on est confronté à comment. Et en plus, dans une prison. Hein, c'est un lieu d'un présent sans cesse répété, donc presque une atemporalité. Et donc on est confronté à quelque chose qu'il va falloir arquer différemment. Et c'est vrai qu'on l'écrit plus dans le schéma d'épisode. C'est pour ça que le film est chapitré. C'est pour ça qu'il a des chapitres. Chaque chapitre correspondant à chaque titre, intertitre correspondant à un épisode, en fait. Avec donc presque un cliffhanger à la fin, comme ça, dans le petit chapeau qui va constituer presque le fond d'intertitre. Il va y avoir un cliffhanger, quelque chose qui va m'amener sur l'épisode suivant. Alors, qu'est-ce que je comprends? Donc, il y a déjà cette idée, cette forme qui est très très différente d'un prophète, et ça va m'amener à penser la musique différemment. C'est que je sens que j'ai besoin, justement, pour le temps, pour la durée, j'ai besoin d'autres musiques que celles d'Alex. Et c'est pour ça que je fais appel, je prends d'autres musiques, des musiques de source, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui, elles, vont avoir une fonction sur la temporalité du film. Ça va être des machines à faire passer le temps, à rythmer ce temps-ci. Et alors que Alex, il s'occupera des personnages. C'est quelqu'un, c'est pour ça que, par exemple, il a fait un truc que je trouve très très beau. Il a utilisé un corps. C'est un corps anglais, comme ça, qu'il est sur le personnage de Malik. Et c'est vrai que ça fait comme tout à coup une espèce de lumière au-dessus, de lumière sombre au-dessus, qui barre au-dessus du personnage. Et lui va donc suivre les personnages, et les autres musiques vont me scander le temps, vont travailler le temps.
Pourquoi est-ce que vous ne revoyez pas vos films? Est-ce que ça vous empêche de faire le prochain?
Non, c'est pas ça. Une fois que je sors d'un film, je l'ai beaucoup vu. Hein. Donc, ça y est, c'est fait. Voilà, il y a quelque chose. Et que c'est vrai que je suis... c'est peut-être une impatience grande, mais c'est vrai que quand... Et ça se passe généralement au mixage. C'est que quand je vois le film, des premières journées de mixage, ça y est, je sais que je sens comme une porte qui se ferme derrière moi. C'est terminé. Je suis déjà sur autre chose, je pense.
Vous avez un projet. Enfin, il y a un projet de remake en cours d'un prophète aux États-Unis qui serait réalisé. Alors, peut-être pas les dernières informations par Sam Raimi.
Ah, oui, c'est curieux. Hein.
Qui est le réalisateur des trois premiers Spider-Man. Pourquoi c'est curieux?
Vous m'auriez posé la question comme ça, j'aurais pas pensé à ça. D'ailleurs, j'aurais pensé à personne. Mais tout à coup, Sam Raimi tombe. Je suis obligé d'y penser. C'est Spider-Man, c'est tout ça. Je vois. Bah, écoute, vas-y, mon gars.
Vous avez un peu de curiosité pour ce projet?
Aucune.
Vous suivez un peu le casting?
Ah non, strictement aucune.
Vous le verrez pas?
Ben si, je le verrai, bien sûr. Mais là, je vais pas suivre le projet. Je suis ailleurs, je suis dans autre chose. J'ai pas, ça remonte à 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais plus, c'est derrière.
2009, un prophète.
Combien vous dites?
2009, un prophète.
Mais ça nous fait combien, ça?
Ça fait 6 ans.
Oui, c'est ça.
Non, plus même. Oui. Je sais même plus combien. Vos films ont connu d'ailleurs un grand succès à l'étranger et aux États-Unis notamment. Comment vous l'expliquez, ça, Jacques Audiard?
Je sens, à partir de sur mes lèvres, que quelque chose, qu'il y a un intérêt, un intérêt de l'étranger, de l'Angleterre, de d'autres pays, de l'Italie ou des choses comme ça. Et c'est très étonnant quand vous êtes réalisateur français. On est très très frontalier. C'est le français et francophonie, quoi. Voilà, on n'est absolument pas habitué, enfin, on est peu habitué à penser à l'étranger. Alors moi, comment je l'explique? C'est que je l'explique par la lisibilité de mes histoires, de mes scénarios, des scénarios. Je crois que c'est ça. Je parle pas de réalisation, je parle pas de la réalisation des films. Tout ça, je crois que en premier, ce qui peut pénétrer, c'est des, je crois, je suis pas sûr. Et qu'après, ce qui est assez étonnant, c'est quand, je répète, ce qui est très étonnant pour un cinéaste français, c'est d'avoir des films qui se font avec de l'argent de finance, enfin de chaînes étrangères ou des trucs. Ça, c'est, je trouve, et que je trouve ça très très bien. Et en fait, je m'aperçois que j'ai peut-être que c'est ce que je veux, en fait. Je veux pas de la confidentialité cinéphile française. J'ai l'impression que ça me fait peur. En fait, ça me fait peur.
Ça vous permet d'imaginer d'autres choses ou d'avoir l'impression d'avoir des possibilités plus grandes aussi dans l'élaboration du film? Imaginer avoir des financements.
Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas comme ça. C'est de me dire, tiens, je
être aimé une seconde par des gens qu'on ne connaît pas. C'est plutôt ça.
Les prix, vous disiez être aimé par des gens que vous ne connaissez pas. Les prix sont
généralement donnés par des gens que vous connaissez.
Oui, mais ils représentent
Vous voyez la nuance.
J'espère qu'ils représentent quelque chose de plus large.
Non, bien sûr. C'est ce que disait Céline, je trouve, quand elle a reçu Siama. C'est un geste d'amitié, bien sûr. Moi, je trouve ça très, très touchant. Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose.
Vous êtes sur le point de tourner, je crois, cet été, une adaptation à nouveau, hein, Brothers Sisters, un roman de Patrick Devitt avec un casting américain. Comment est-ce que vous envisagez cette nouveauté-là ?
Avec terreur. Il n'y a pas d'autre mot. Une terreur blanche, un peu japonaise. Je ne sais pas comment... Non, c'est terrifiant, mais je trouve ça très... Allez, amusant. Non, le sujet me plaît, ça m'intéresse. Non, voilà, c'est que j'ai très envie. C'est terrifiant parce que c'est un western. Ça va être une mise en œuvre un peu qu'il faut que je pense un peu, faut la simplifier. Que je suis très 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 intéressé par les acteurs américains, très intéressé. Je veux voir ce que c'est un peu. Voilà, je veux savoir comment ça fonctionne. Non, voilà, c'est de la très. En fait, voilà, j'ai peur comme on est très très curieux de quelque chose. Pourquoi vous me regardez pas tout le temps ?
Je regarde l'horloge.
Le mec fou.
J'ai lu que vous alliez le tourner en Europe et pas aux États-Unis.
Oui, parce que comme moi j'ai fait tous les le retour, une fois que j'accélère, j'allais tout dire. Oui, nous avons repéré, on a fait tout, parce que ça se passe entre Oregon City et San Francisco en 1850. Donc j'ai fait tout ce repérage-là. Après, on est allé repérer en Alberta. Alors c'est formidable en Alberta, c'est là où on était, se tourne tout, Deadwood, tous ces trucs-là. Alors vous avez tous les villages sont là, prêts à être utilisés demain. C'est incroyable. Alors il y a le grand ciel, il y a les montagnes au loin. Juste, je suis devant ça et je me dis, tiens, où est-ce que je l'ai vu ? Tout le temps, j'ai vu dans tous les films. Et donc ça me, hormis, si on ajoute à ça l'extraordinaire lourdeur de la mise en œuvre du cinéma américain. C'est lourd, ça me convient pas. Donc voilà, on va tourner comme des pauvres. On va se mettre en Espagne et en Roumanie.
Un grand merci à vous.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Jacques Audiard avec Lucille Como. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.